Renaissance, cette semaine, la vérité des mythes. Aujourd'hui, des anciens grecs aux ethnologues avec Bernard Mésadry, maître de conférence à l'Université d'Avignon. Après avoir longtemps été la voix royale des ethnologues, Bernard Mésadry, bonjour.
Bonjour.
Le mythe nous revient aujourd'hui sous forme de questions. La notion empruntée à la langue des anciens Grecs doit-elle s'appliquer à des récits, aux registres et à la fonction souvent très différents chez des peuples aussi divers que, par exemple, les Iroquois, les anciens Égyptiens ou les Chinois? Y a-t-il une pensée ou une philosophie ou plutôt une vision du monde dans les mythes? Est-ce que les mythes sont un langage archaïque, celui d'une humanité dans l'enfance, le chant de la terre ou la tragédie de la nature, selon les belles expressions de Marcel d'Étienne? Bernard Mésadry, il faudrait peut-être commencer par donner une définition de ce qu'est le mythe.
Oui, c'est une question extrêmement délicate, justement parce que les avancées les plus récentes de la recherche ont remis en cause les certitudes sur lesquelles, pendant très longtemps, les anthropologues, les philologues, les antiquisants se sont appuyés. Aujourd'hui, à vrai dire, nous hésitons beaucoup lorsqu'il s'agit de définir précisément ce que peut être un mythe, et nous nous demandons même si la catégorie est toujours une catégorie valide, si on peut toujours l'employer en toute certitude, ou si au contraire il faut franchement la reconsidérer, voire y renoncer. Disons que traditionnellement on considère que les mythes sont des récits portant sur la période des origines et qui mettent en scène des personnages extraordinaires comme les dieux ou comme les héros. Mais cette définition même du mythe est une définition qui s'appuie très largement sur la conception que nous avons, nous autres occidentaux modernes, de la mythologie gréco-romaine. Donc une conception qui n'est pas forcément utilisable pour l'ensemble des traditions dont nous pouvons disposer.
Bernard Mésadry, vous avez donc coordonné ce numéro spécial de la revue Europe de d'août-septembre 2004 consacré au mythe et à la mythologie dans l'Antiquité gréco-romaine. Alors, beaucoup de voix s'y sont exprimées, mais il faut rappeler tout de même que effectivement, dans le mot mythe, il y a l'ancienne racine grecque qui renvoie tout de même à une forme d'élocution et de récit bien particulière à cette civilisation.
Oui, c'est une des difficultés que nous avons dans l'utilisation du mot mythe. En effet, le mot mythe est un mot qui, dans notre langue, et c'est le cas dans la quasi-totalité des langues européennes modernes, est emprunté à la tradition grecque. C'est un mot grec. Or, ce que nous constatons lorsque nous examinons l'utilisation du mot mythos, qui est à l'origine de notre mythe, c'est précisément que la signification de mythe, de récit donc portant sur les origines, portant sur les dieux, portant sur les héros, est une signification qui n'apparaît que relativement tardivement et jamais de manière franchement très nette.
Oui, oui.
Le mot mythe, le mot mythos en Grèce ancienne, signifie d'abord parole, discours, et ce n'est que progressivement qu'il va s'orienter vers la signification que nous lui donnons aujourd'hui.
Oui, parce que à l'origine, le mot grec est notamment employé dans la poésie épique, dans la tragédie aussi, et il signifie, comme vous le dites, Bernard Mésadry, donc une forme de discours. Et assez vite, malgré tout, il y a une notion d'autorité. C'est un discours d'autorité.
Oui, alors ce discours est un discours qui est peut-être caractérisé plus précisément par son efficacité.
Ouais.
Son action, c'est le discours considéré du côté pragmatique, dirait-on en employant un terme un petit peu moderne, du point de vue de l'efficacité qu'il peut avoir sur l'auditoire.
Discours argumenté.
Il peut être argumenté, ce n'est en tout cas pas à l'origine un discours qui se caractérise par un aspect fictif ou par sa fausseté. C'est un discours qui peut avoir autant de rapports avec la réalité que celui que l'on désigne par le terme logos.
On va voir, Bernard Mezzadri, comment la notion s'est transformée dans la longue histoire de la civilisation grecque. Mais puisque nous sommes dans cette phase liminaire des définitions générales, je vous propose d'écouter celle d'un grand anthropologue et ethnographe, Claude Lévi-Strauss, le 30 juillet 1974, donc sa définition du mythe.
Je pense donc qu'il faut essayer de trouver des critères plus objectifs. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Eh bien, son caractère essentiel, c'est d'être une histoire qui ne vient de nulle part. Je veux dire qu'il ne vient de nulle part parce qu'elle est transmise par la tradition orale, qu'elle a probablement été racontée pour la première fois un jour et en un lieu, mais que pour qu'elle devienne vraiment un mythe et pour qu'elle soit reconnue comme telle, il faut qu'elle ait été retenue, répétée, re-racontée, retenue, re-racontée tellement de fois de suite que personne ne sait plus d'où elle vient et par conséquent on lui attribue une origine surnaturelle. Et c'est une histoire qui, en général, prétend rendre compte de la manière dont l'univers ou dont la société sont organisées et de la raison ou des raisons pourquoi il est bon qu'elles soient organisées, qu'il ou elle soit organisé comme ils sont.
Donc Bernard Mezzadri, un discours sur la manière dont la société est organisée, sur son origine, et puis alors deux considérations formelles très importantes, je pense, c'est le récit qui ne vient de nulle part, une origine fabuleuse, et la tradition orale, l'importance de la transmission.
Bien sûr, oui, l'une des caractéristiques de ces récits qui servent en quelque sorte de charte aux sociétés traditionnelles, c'est de n'avoir pas d'origine définissable, de n'avoir pas d'auteur précis auquel on puisse les attribuer. Et c'est en même temps de mettre en place un certain nombre de catégories qui vont servir de référence pour l'organisation de la société, rendant ces catégories par là même indiscutables ou difficilement discutables, puisqu'elles renvoient à l'origine.
Alors revenons, si vous le voulez bien, à la notion grecque de mythos, donc qui est au fond de notre utilisation moderne du mythe. On l'a souvent opposé, mais dans un regard rétrospectif, après coup si j'ose dire, on l'a souvent opposé à une autre notion grecque très importante qui apparaît avec la philosophie, celle de logos. En fait, cette opposition est largement artificielle. Chez les Grecs, il n'y a pas de solution de continuité, à vrai dire, entre mythos et logos. Ils appartiennent au même ordre de réalité.
Oui, c'est essentiellement à Claude Calame que nous devons le mérite de cette démonstration, même si elle avait déjà été engagée par d'autres...
Dont Marcel d'Étienne, d'ailleurs. Oui.
Marcel d'Étienne aussi. En fait, la distinction que nous avons tendance à faire aujourd'hui entre mythos et logos...
Qui signifie discours articulé, organisé, suivant une pensée, voilà, pour résumer.
C'est ça, oui, est une distinction qui n'apparaît que relativement tard dans la civilisation grecque. On peut néanmoins estimer qu'avec Platon, elle commence à se mettre en place et que pour Platon, il y a une antithèse entre les récits qui relèvent du mythos et qui sont caractérisés par le fait qu'ils sont non vérifiables et le fait aussi qu'ils sont de type narratif. Et les discours que l'on ramènera au contraire au logos, qui sont les discours de la philosophie,
discours
argumentés, qu'on peut qualifier effectivement de rationnels, des discours donc qui visent à une démonstration, plus qu'un récit. Donc cette opposition est une opposition que Platon met en place, et en même temps, ce qui est relativement singulier, Platon a néanmoins recours très fréquemment à des mythes, comme si finalement il était tout de même obligé de s'appuyer sur ces discours traditionnels après les avoir théoriquement rejetés. C'est le cas pour deux raisons, pourrait-on dire. Je crois que Platon a recours aux mythes d'une part quand il s'agit d'atteindre des domaines qui ne peuvent pas être décrits par le biais du discours argumenté, du logos, par exemple tout ce qui touche à l'eschatologie, à l'avenir de l'âme après la mort. Et c'est le cas aussi lorsqu'il s'agit de s'adresser à des esprits qui sont des esprits non philosophes, que par conséquent on ne peut pas convaincre par l'argumentation. Dans ce cas-là, le mythe, qui, comme nous le disions tout à l'heure, est un discours dont l'efficacité sur l'auditeur est très importante, est un recours utile, y compris pour Platon.
D'ailleurs, à ce moment-là, Platon emploie souvent le terme étrange pour nous de mitoi legein, c'est-à-dire de mythe à dire, en employant dans la même expression, donc mythos et logos, que par la suite on a quand même voulu disjoindre.
Oui, tout en le conservant quand même dans notre mythologie.
Bon, il y a le mythe de l'Atlantide, le mythe d'Air, le mythe de la caverne aussi, qui est très connu, et qui ont effectivement une fonction didactique.
Oui, tout à fait. Platon utilise également le terme logos pour décrire ses anciens récits traditionnels. Mmh. Et donc la coupure que nous avons tendance à faire aujourd'hui n'est pas si nette qu'on le prétend parfois, y compris chez Platon, qui est pourtant celui qui l'a poussé le plus loin. De ce point de vue-là, on peut même dire qu'Aristote est un peu revenu en arrière par rapport à Platon. Sa mise à l'écart, son rejet du mythe est beaucoup moins net. Et notamment, on sait qu'Aristote utilise le terme mutos pour décrire l'intrigue de la tragédie dans la poétique.
C'est-à-dire le récit élémentaire, presque, la structure narrative.
La structure narrative, le récit qui sert de support à la tragédie.
Le noyau de sens.
Avec tout de même cette difficulté que, si on regarde bien, l'essentiel des références de la tragédie, la matière de la tragédie, est tout de même dans l'Antiquité grecque une matière mythique au sens moderne du terme. Nous avons bien quelques tragédies comme les Perses d'Eschyle ou comme la prise de Milet que nous n'avons pas conservée de Phrynikos, qui sont des tragédies historiques, mais pour l'essentiel, le fond de la tragédie est un fond mythique au sens banal du terme, le sens que nous prenions comme point de départ.
Qui n'est pas d'ailleurs mis en cause. Alors, il faut préciser, Bernard Mézadry, que dans la critique que Platon fait au mythe comme discours non vrai, disons, comme discours qui n'aurait pas la fiabilité de la démonstration rationnelle, il y a davantage des raisons d'ordre éthique que d'adéquation à la vérité historique. La vérité historique des mythes n'est pas mise en cause par les Grecs directement. C'est plutôt des considérations d'ordre éthique.
Alors, ce sont les considérations d'ordre éthique qui dominent indubitablement chez Platon, puisque Platon admet, dans la manière dont il définit l'éducation idéale de sa cité de la République, admet donc que l'on utilise effectivement des mythes, à condition que ces mythes soient des mythes moralement corrects.
Voilà.
Les mythes qu'il faut écarter, ce sont les mythes scandaleux, ceux qui montrent un fils qui castre son père, ceux qui montrent les combats entre les dieux et les titans, les histoires
de dissolue de certains dieux.
Voilà, les adultères des dieux, les dieux voleurs comme le petit Hermès, tout cela naturellement pour Platon, il faut l'exclure. En revanche, un mythe qui incite les citoyens à bien se comporter dans la société est tout à fait acceptable dans le cadre de l'éducation, même si c'est un type de discours par principe inférieur au logos de la philosophie. Il est admissible à partir du moment où il est moral. Et cela, je crois que cela remonte en fait à l'origine de la critique du mythe chez les Grecs, puisque dès le VIe siècle, avec le philosophe Xénophane, on a un rejet d'un certain nombre de ces histoires anciennes parce que elles ne sont pas moralement acceptables. C'est ce que fait déjà Xénophane. Cela dit, il faudrait peut-être nuancer ce point de vue en rappelant que chez le même Xénophane, il y a une remarque qui est peut-être plus radical, puisque Xénophane dit dans un des fragments qui nous sont conservés, on va conserver la totalité de son œuvre, loin de là, il dit que si les chevaux ou les bœufs avaient des dieux, il les représenterait sous la forme de chevaux ou de bœufs. Et nous avons là une critique de l'anthropomorphisme qui est tout de même une critique assez fondamentale, qui ne porte pas exclusivement sur l'aspect moral des choses, mais qui va peut-être un petit peu au-delà.
Et puis par ailleurs, pour des historiens comme Thucydide, l'historicité par exemple de Minos ou d'Agamemnon, et partant celle de la guerre de Troie, n'est pas remise en cause.
Pas du tout, non. En effet, dans son archéologie, dans ce que l'on appelle son archéologie, c'est-à-dire la première partie de son histoire, celle qui porte sur les temps que nous appellerions aujourd'hui mythiques, Thucydide considère que Minos a effectivement existé. Simplement, au lieu d'être le roi fils de Zeus tel que le présente la tradition, il y voit le premier maître de la thalassocratie, le premier à avoir exercé son pouvoir, sa domination sur les mers. Donc il historicise tout de même un peu le personnage, mais il ne met pas en doute, loin de là, son existence, pas plus que celle de la guerre de Troie.
Avant d'évoquer la manière dont cette notion de mythe donc va se perpétuer, se transformer, notamment dans l'anthropologie du XIXe siècle, je vous propose d'écouter donc un texte de Gaston Bachelard, un très beau texte sur la richesse protéiforme du mythe. C'est un extrait de la préface qu'il avait donnée donc au livre célèbre de Paul Deal sur le symbolisme dans la mythologie grecque.
Le domaine des mythes s'ouvre aux enquêtes les plus diverses et les esprits les plus différents. Les doctrines les plus opposées ont apporté des interprétations qui eurent chacune leur heure de validité. Il semble ainsi que le mythe puisse donner raison à toute philosophie. Êtes-vous historien rationaliste ? Vous trouverez dans le mythe le récit encombré des dynasties célèbres. N'y a-t-il pas dans les mythes des rois et des royaumes ? Pour un peu, on daterait les différents travaux d'Hercule, on tracerait l'itinéraire des Argonautes. Êtes-vous linguiste ? Les mots disent tout. Les légendes se forment autour d'une locution. Un mot déformé, voilà un dieu de plus. L'Olympe est une grammaire qui règle les fonctions des dieux. Si les héros et les dieux traversent une frontière linguistique, ils changent un peu leur caractère. Et le mythologue doit établir de subtils dictionnaires pour déchiffrer deux fois, sous le génie de deux langues différentes, la même histoire. Êtes-vous sociologue ? Alors dans le mythe apparaît un milieu social, un milieu moitié réel, moitié idéalisé, un milieu primitif où le chef est tout de suite un dieu. Et toutes ces interprétations, qu'on pourrait étudier tout le long d'une histoire, se raniment sans cesse. Il semble qu'une doctrine des mythes ne puisse rien éliminer de ce qui fut, un temps durant, un thème d'explication. Par exemple, entre le héros solaire et le héros humain, la compétition n'est jamais vraiment éteinte. L'immense nature explique la nature profonde de l'homme et, corrélativement, les rêves de l'homme se projette invinciblement sur les grands phénomènes de l'univers. Un étroit symbolisme coordonne les valeurs mythiques et les valeurs cosmiques. Et la mythologie devient une suite de poèmes. Et la mythologie est comprise, aimée, continuée par les poètes. Est-il meilleure preuve que les valeurs mythiques restent actives, vivantes ? Et puisque tant d'explications peuvent en être données, n'est-il pas de meilleure preuve que le mythe est essentiellement synthétique ? Dans sa simplicité apparente, il noue et solidarise des forces psychiques multiples. Tout mythe est un drame humain condensé. Et c'est pourquoi tout mythe peut si facilement servir de symbole pour une situation dramatique actuelle.
Voilà, Gaston Bachelard qui propose donc une forme de grammaire des mythes, du moins d'une manière virtuelle, celle que des tentatives comme celle de Lévi-Strauss ou de Georges Dumézil ont par la suite poursuivi.
Oui, alors les remarques que fait ici Bachelard sont tout à fait pertinentes en ce qui concerne la mythologie grecque. C'est vrai que l'une de ses caractéristiques, c'est d'avoir engendré un très grand nombre d'interprétations. Et ce qui est peut-être le plus remarquable, c'est que cette série d'interprétations intervient très tôt, presque dès l'origine, c'est-à-dire que nous n'avons pratiquement pas en Grèce de période que l'on pourrait qualifier de purement mythique. D'emblée, le mythe semble apparaître avec une interprétation, accompagnée d'une, voire de plusieurs, d'innombrables interprétations. Donc oui, effectivement, cette caractéristique du mythe est très visible, très perceptible dans la tradition grecque, au point que Claude Lévi-Strauss considérait les Grecs comme des sortes de précurseurs de l'analyse structurale. Il dit quelque part qu'on a parfois l'impression que les mythes grecs font leur propre analyse structurale, comme si dans la mythologie grecque il y avait déjà en partie ce décalage entre le texte et son interprétation, comme si le mythe sortait en quelque sorte en Grèce, nous apparaissait plutôt déjà interprété, jamais brut, jamais authentique, jamais original, comme pouvaient le souhaiter les romantiques, par exemple.
Oui, oui. L'accent est mis d'ailleurs aussi sur cette prodigieuse fécondité du mythe, hein, qui est poursuivie à la fois dans la tradition orale, puis par les poètes. On pense au mythe de Prométhée, hein, d'Eschyle à Goethe et au-delà, jusqu'à Gide, qui a donné tellement de versions et de versions inspirées.
Oui, c'est un type de récit qui est particulièrement ouvert à l'interprétation et aux réinterprétations. Alors bien sûr, on peut peut-être distinguer de ce point de vue-là deux niveaux tout de même. Il y a les réinterprétations qui sont des variantes, qui sont des variations au sein d'une même culture. Ces variantes, ces variations offrent un spectre assez large, mais néanmoins sont bornées par des limites. Il y a des choses que l'on ne peut pas dire sans sortir du récit traditionnel ou sans le briser. Par exemple, on ne peut pas imaginer qu'Oreste ne tue pas sa mère. Je crois que si on décidait de raconter une histoire, l'histoire d'Oreste, et qu'Oreste ne tue pas sa mère en Grèce ancienne, on ne serait plus dans le cadre du mythe. Ce n'est donc pas possible. Et on le voit, je crois, très nettement chez un auteur comme Euripide, parce que l'une des caractéristiques du théâtre d'Euripide, c'est précisément d'utiliser ces mythes et de les pousser à leurs limites extrêmes, au point le plus avancé que l'on puisse atteindre, sans sortir de la tradition mythique. Un bon exemple en est le cas d'Électre. La tradition veut qu'Électre ne soit pas marié, et cela apparaît chez Sophocle, qui joue sur les mots et qui associe le nom d'Électre, Electra donc, au mot Alectra, c'est-à-dire celle qui ne connaît pas le lit. Et pendant toute la tradition grecque, Électre est une fille uniquement associée à la mémoire de son père, Agamemnon, qui par conséquent ne se mariera pas. Euripide marie Électre, c'est-à-dire qu'il franchit tout de même une frontière qui semblait interdite à un grec. Néanmoins, il conserve la logique, il conserve le fond de l'histoire, parce que ce mariage est un mariage blanc. Électre a épousé un brave homme qui n'est pas de sa classe sociale et qui respecte par conséquent sa virginité, qui ne veut pas abaisser Électre en s'unissant sexuellement à elle. Et par conséquent, Électre est bien mariée, mais elle n'entre tout de même pas dans le lit de son mari. Donc on a l'impression que là, Euripide touche la limite. On peut marier Électre, mais on ne peut pas faire qu'Électre soit mère, par exemple. Et je crois que cette limite est caractéristique des variations et des limites des variations à l'intérieur d'une civilisation. Lorsqu'on sort de cette civilisation, la réinterprétation du mythe devient tout de même beaucoup plus libre. C'est un autre type de réinterprétation.
Alors, il y a au fond du mythe, on parle donc du rapport du mythe à la vérité, de son registre particulier de vérité. Et alors, il y a au fond du mythe, c'est ce que les anthropologues, finalement, au XXe siècle, ont redécouvert, un noyau de vérité qui a une forte tendance à l'universalité. Et c'est dans cette optique-là que les anthropologues, justement, ont essayé dans une optique comparatiste d'approcher au plus près cette vérité.
Oui, alors, de ce point de vue, tout dépend un peu ce qu'on entend par vérité. S'il s'agit de parler d'une vérité ultime, d'une vérité en quelque sorte mystique, que le mythe recèlerait et qu'on ne pourrait pas atteindre, par exemple, par un discours rationnel, je serais assez réticent à vous suivre. S'il s'agit de dire que le mythe nous donne des informations et par conséquent nous donne un enseignement sur la culture qui la produit et par extension sur l'ensemble des cultures humaines si on l'utilise dans une perspective comparatiste, là j'en serais plus d'accord. Une vérité donc qui serait une vérité relative, une vérité d'une part historique, parce qu'elle est le produit d'une culture spécifique, et à terme peut-être une vérité anthropologique au sens plus large du terme, si on l'utilise dans une perspective comparatiste. Mais une perspective comparatiste qui insistera au moins autant sur les différences que sur les similitudes.
Cela dit, pour le comparatisme qui fait surgir le sens chez les anthropologues, le mythe est quand même un vecteur particulièrement puissant. On le voit chez Dumézil, par exemple.
Oui, alors, Dumézil est tout de même très précis dans sa définition des découvertes qu'il fait, puisqu'il les cantonne au domaine indo-européen.
Oui.
Donc Dumézil ne prétend pas...
C'est un domaine large.
C'est un domaine large, mais c'est un domaine qui est historiquement définissable. Mmh. Et en particulier, il peut s'appuyer sur les origines linguistiques communes de ces sociétés. Les découvertes de Dumézil ne sont pas extensibles au monde entier, ne sont pas universalisables. Donc il n'y découvre pas une vérité qui serait une vérité humaine au sens large du terme. Au contraire même, l'un des combats de Dumézil a consisté précisément à montrer que sa trifonctionnalité était cantonnée à un domaine précis et que ce n'était pas simplement une banalité, qu'on ne retrouvait pas cette définition des trois fonctions absolument partout.
Mais les trois fonctions, la fonction donc royale, la fonction religieuse, la fonction guerrière qui structure les sociétés, c'est tout de même essentiellement dans des récits mythiques qu'il les a trouvées. Et de là, il les a appliquées à des sociétés comparables.
C'est vrai, il les a trouvées dans des récits qui sont essentiellement des récits mythiques, sauf peut-être le cas romain qui est un cas très particulier, puisque à Rome, c'est dans l'histoire ancienne que Dumézil va retrouver ses structures et ses vieux récits, parce que, pense-t-il, les Romains ont ramené sur terre ce que les autres traditions indo-européennes situaient dans le ciel. Donc c'est vrai que c'est essentiellement dans les récits mythiques qu'il va rechercher ses structures. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il voit dans les récits mythiques des discours détenant une vérité profonde, une vérité qui serait une vérité universalisable.
Ça, c'est un concept opératoire dans la perspective du comparatisme généralisé.
Je crois, oui, je crois qu'on peut considérer le mythe comme un concept opératoire, comme un instrument de travail et non pas comme une substance. De ce point de vue-là, les avertissements de Marcel de Tienne et de Claude Calam sont, je crois, tout à fait utiles et doivent nécessairement être pris en compte.
Merci Bernard Mezzadri. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université d'Avignon et que vous avez dirigé donc ce numéro de la revue Europe intitulé « Mythes et mythologie dans l'Antiquité gréco-romaine ». Christophe Brault a lu les textes. C'était « Des anciens grecs aux ethnologues », premier volet de cette série consacrée consacré à la vérité des mythes que nous retrouverons demain avec Paul-Laurent Hassoun. Les chemins de la connaissance, une émission préparée.